BFM Business, l'heure H, la question du jour.
La journée des retours, Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez vu ce chiffre qui vient de sortir, l'OFCE, 120 milliards d'euros de perdus d'activité en France. Est-ce que, sur 8 semaines, est-ce que ça corrobore un peu les différents chiffres que vous aviez aussi mis en avant, que le gouverneur de la Banque de France a rappelé encore une fois hier? Est-ce que c'est les chiffres qui vous paraissent de la bonne épure?
Je crois, oui, qu'on est à peu près sur des ordres de grandeur qui deviennent réalistes. Il y a eu toute une série... Nous, les premières estimations qu'on avait faites, c'était de cet ordre-là. C'était de dire... Objectivement, quand on voit ce qui se passe en termes de secteurs pénalisés, de secteurs impactés, que grosso modo, la perte d'activité, elle serait d'environ 6 à 8% sur l'année et qu'on pourrait avoir des déficits publics qui explosent jusqu'à 10% du PIB. Alors après, tout le monde met du temps à s'adapter, mais c'est vrai qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est sur les ordres de grandeur et surtout, ce qui va être déterminant, c'est qu'on sent bien que le mois le plus terrible sera le mois d'avril. Et que la perte d'activité la plus violente, la plus brutale, ce sera sur le mois d'avril, et que on y verra sans doute un peu plus clair ensuite. Mais oui, les chiffres de l'OFCE, effectivement, ça dit quoi? Ça dit que l'activité en France tourne à peu près à 65% de ses capacités, mais ça c'est le chiffrage PIB. Or, les conventions comptables en France font que on surestime très largement le niveau d'activité réelle. C'est-à-dire que là-dedans, quand on dit que l'économie française tourne aujourd'hui à peu près aux deux tiers de ses capacités, vous avez toutes les administrations qui, par définition, on considère qu'elles travaillent, puisque leur contribution au PIB, c'est la rémunération le traitement de tous les serviteurs publics. Donc, sans doute sur les entreprises, ce que dit l'OFCE, c'est qu'on est plus proche d'un niveau d'activité moyen autour de 50 à 55% de l'activité. Donc oui, c'est un choc extrêmement brutal.
Combien de temps faudra-t-il pour récupérer, je veux dire, ces milliards qui sont en train de... Enfin, il ne sait pas qu'ils partent en fumée, en tous les cas, ces milliards qui ne sont pas créés, puisque c'est la perte d'activité, comme vous l'avez rappelé.
Alors... Si, d'abord, il faut relativiser quand même ça va peut-être vous choquer ce que je vais dire, mais il faut relativiser la gravité de cette crise quand même. Parce que quand vous la remettez, quand le Premier ministre dit par exemple c'est la pire récession depuis 1945, c'est vrai dans l'absolu, dans les chiffres. Enfin, dans les mécanismes, ça n'a strictement rien à voir. Bien évidemment que c'est pas la guerre, il y a pas de destruction, il y a pas de paralysie des services publics, les prix ont encore un sens et on n'est pas sur une durée infinie. Ça n'est même pas aussi grave que 2008-2009. Je vous rappelle quand même que pour l'instant...
Si ce n'est qu'en 2008-2009, c'était moins 3%, quoi, la perte de PIB.
Oui, mais c'était moins 3%, mais c'était une crise qui était très longue. La dette publique, je vous rappelle, on met sur la table, pour sortir de la crise de 2008-2009, on met quasiment 30 points de PIB. Là, on en est quand même que... entre guillemets, à 10 points de PIB. Donc, on n'est pas dans une crise qui est aussi violente. Après, effectivement, alors vous savez, au petit jeu des lettres pour décrire le profil
W, l'alphabet,
de la reprise, l'alphabet. Alors, il y a un nouveau terme qui est apparu ces derniers jours, c'est le terme de « switch ». Recovery, vous savez ce que c'est le Swoosh. Le Swoosh, c'est le logo de cette célèbre marque américaine de vêtements et de chaussures de sport en quatre lettres.
Oui.
Et vous voyez bien cette espèce de virgule inversée qui fait que vous avez d'abord un mouvement qui va vers le bas et puis après un mouvement de remontée progressive où on parle de cross de hockey aussi, etc. Donc c'est bien ça. Je pense que la vraie maintenant prise de conscience de ces derniers jours, c'est que la reprise sera progressive. Elle sera progressive parce qu'on voit bien que la vie ne redeviendra pas normale du jour au lendemain, donc la production ne redeviendra pas normale du jour au lendemain, que les consommateurs ne reprendront pas leur comportement d'hier du jour au lendemain, peut-être seront-ils encore plus prudents, et que tous les pays du monde n'étant pas à l'unisson dans cette crise, et restant quand même très interdépendants tous, même si on nous dit que le monde va être un peu moins globalisé, etc. La réalité, c'est que la Chine ne retrouvera pas un niveau d'activité normal tant que les États-Unis ne seront pas redevenus un client normal. Et donc, on se rend compte vraiment que cette reprise sera très progressive et que ça va être crucial non seulement d'accompagner le moment de la crise sanitaire, par les plans de relance, par les banques centrales, mais que ce sera aussi fondamental d'accompagner, une fois la crise sanitaire passée, le redressement économique.
Emmanuel Le Chypre, est-ce que justement, est-ce qu'il y a un point clé hier, la Première ministre a fait une conférence extrêmement longue sur le déconfinement. Bon, tout n'est pas clair, c'est le moins qu'on puisse dire. On attend évidemment son plan qui sera présenté fin avril. Est-ce que le déconfinement, la période de déconfinement va être très importante? Ce matin, je recevais Jacques Ressel, président de la Fédération du commerce et de la grande distribution. On voit bien que le rythme de réouverture des différents commerces va être très important. Savoir si en plus les Français vont revenir, qu'est-ce qui va se passer cet été. Donc le déconfinement est essentiel.
Oui, mais ce qui compte, c'est effectivement essentiel. Mais une fois qu'on a parlé de déconfinement, c'est en quel terme? C'est-à-dire que, est-ce que vous imaginez demain, quand on va dire les restaurants rouvrent, est-ce que vous pensez que ça rouvrira comme c'était avant? C'est-à-dire que, est-ce qu'on va pas vous dire, maintenant dans les restaurants on supprime...
C'est pas ça, vous qui vous posez la question, Emmanuel, vous êtes un fan.
On supprime une table sur deux. Non mais ce que je veux dire, c'est que même si les restaurants rouvrent, ils rouvriront pas avec le volume d'activité d'avant. Est-ce que dans les hôtels ça va pas être pareil? Le transport aérien, est-ce que ça va pas être pareil? Donc on voit bien quand même que ce sera pas du jour au lendemain, on reprend une vie normale, une activité normale, une production normale et une consommation normale.
Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre. Dans un instant, on retrouve Daniel Cohen, professeur d'économie de Paris. Il est en direct avec nous. On regardera un petit peu sur ce monde d'après. Est-ce que finalement, il sera pas pire que le monde d'avant? Et puis, on reviendra sur ce chiffrage de la crise économique. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
L'invité de l'orage, Daniel Cohen, professeur d'économie de Paris, directeur du département d'économie à l'École normale supérieure. Daniel Cohen, bonjour, merci d'être avec nous. On sait que c'est toujours un exercice un peu compliqué, mais avec vous, je suis sûre qu'il va être très simple. On a besoin de vos lumières. D'abord, pour voir un peu, pour réagir peut-être déjà à cette note de l'OFCE sur le coût des 8 semaines de perte d'activité, ce chiffre de 120 milliards. Est-ce que vous paraît à peu près raisonnable dans les pires que vous avez construites? Et puis avec vous, on reviendra sur les dettes souveraines évidemment qui vont augmenter avec les plans de soutien, les différents plans qui ont été mis en place au niveau européen, au niveau national. On parle beaucoup d'effacement de ces dettes liées au coronavirus. Est-ce que c'est possible ou pas? Vous êtes un des meilleurs spécialistes des dettes souveraines. Et puis on va regarder un peu ce monde d'après sur lequel vous travaillez. Vous dites que c'est le monde de l'après numérique. Daniel Cohen, d'abord, ces chiffres, cette reprise, comment est-ce que vous la voyez?
Écoutez, on n'a pas cessé de changer d'avis sur l'ampleur de la crise, donc ce serait vraiment très, très imprudent de faire une prévision. Au début de l'année, vous vous souvenez, le FMI avait fait des prévisions d'un ralentissement de croissance de 0,2, parce qu'on pensait que ça serait...
Oui, ça paraît loin, là, c'est vraiment le monde d'avant.
Ça paraît loin. Début mars, ou fin février, je crois, début mars, l'OCDE avait fait une nouvelle prévision dans laquelle elle intégrait le fait que ça serait plus dur, et on était sur un ralentissement de croissance entre 0,5 et 1 point sur l'année. On en est maintenant très loin. On comprend que c'est une crise beaucoup plus violente que celle qu'on envisageait, pour deux raisons. D'abord parce que tous les pays recourent à peu près maintenant, enfin plus de la moitié des pays, des habitants de la planète sont en situation de confinement, donc ça paralyse l'activité économique. Emmanuel Le Chypre le rappelait, c'est un tiers et peut-être plus en réalité de richesse en moins par semaine, par jour, par mois de confinement. Et surtout, c'est le nouveau point, on comprend qu'on ne va pas sortir de cette crise comme ça. On pouvait croire que, voilà, on se confine, ça va bien, on repart et on oublie tout ça. Non, on voit qu'il va falloir apprendre à vivre avec le virus, disait le Premier ministre hier. Et ça nous fait rentrer dans un monde totalement nouveau, profondément incertain.
Ouais. On va y revenir. Peut-être d'abord un point, parce que c'est un peu au cœur des débats. C'est ces dettes souveraines qui sont liées ou qui vont être liées au coronavirus. Est-ce qu'on pourrait les effacer? Est-ce qu'on peut tirer un trait dessus ou est-ce qu'on n'a pas besoin? C'est la Banque Centrale Européenne qui les rachèterait. Et donc finalement, ça ne coûte pas si cher aux États. Comment est-ce que vous voyez ce mécanisme de cette montagne de dettes qui est en train de se créer et d'une manière justifiée? J'ai envie de dire pour une fois.
Oui, premièrement, et vous faites bien de le rappeler, c'est justifié, c'est ce qu'il faut faire. On a des segments très importants de la population et souvent les plus vulnérables qui sont dans l'incapacité de travailler, de produire, de participer à la vie économique. Le rôle de l'État par rapport à ces personnes, c'est d'être le soutien en dernier ressort. Et là, le contrat social ne doit pas laisser de doute sur le fait qu'il faut soutenir ces populations qui n'y peuvent rien et qui ne peuvent pas travailler. De plus, d'un point de vue économique, il faut mettre cette économie ne peut pas fonctionner en état d'hibernation, de coma artificiel, pour utiliser malheureusement une formule qui a cours de nos jours. Et donc, c'est aussi rationnel économiquement de faire que les personnes soient en situation de pouvoir retravailler dès que ce sera possible, et non pas comme on le fait aux États-Unis, les mettre massivement au chômage en sachant que la reprise sera aussi beaucoup plus dure, parce qu'il faudra remettre ces personnes dans la voie d'un contrat de travail. Donc tout ça fait qu'il y a une exigence. Alors pour nous, en Europe, en effet, on a la chance d'être dans une situation où on a une Banque Centrale Européenne qui est en capacité d'agir, c'est-à-dire ce qu'elle a commencé à faire. Après d'ailleurs, une petite hésitation dont on a vu qu'elle est très chère. Quand Mme Lagarde a fait sa première intervention pour dire que la crise souveraine n'était pas son problème, la bourse a perdu 12% ce jour-là, et les spreads, les écarts de taux d'intérêt payés par l'Italie ont explosé. Évidemment, on est revenu en arrière et on a vu quelle était la voie qu'il fallait prendre. Il faut que la Banque centrale agisse pour éviter que cette crise économique ne devienne pas une crise de la dette. Je crois qu'elle l'a compris. Je pense qu'il faudra aller plus loin pour répondre à votre question. Je crois que les États vont devoir émettre des dettes, on va dire, très long terme, peut-être même, comme ça a été suggéré, des dettes 100 ans, des dettes perpétuelles. Il faudra que la Banque centrale la rachète, cette dette nouvelle.
D'accord, donc vous êtes...
Abandonné.
Oui, Daniel Cohen, vous êtes effectivement pour qu'il y ait une forme de dette perpétuelle qui soit créée sur la dette liée au coronavirus.
Très longue, 50 ans, 100 ans, mais voilà, que ce soit une dette qui ne vienne pas handicaper ensuite le fonctionnement normal de nos États. Les conditions de marché le permettent. Il y a une erreur de raisonnement qu'il ne faut pas faire, c'est de penser que ça va être inflationniste. Je ne le crois pas. Je pense que ça va être déflationniste. Il y aura tellement de fragilité économique, il y aura tellement de personnes qui vont vouloir travailler et qui ne parviendront pas à le faire, que je ne redoute pas une inflation salariale. Je crois qu'au contraire, on a vu tout le mal qu'avait la Banque Centrale Européenne avant cette crise à relancer l'inflation. Je pense que ça va être encore plus dur ensuite. Donc, il n'y aura pas de contradiction entre le mandat de la Banque Centrale Européenne, la stabilité de l'inflation autour de 2 points, d'accord, et ce dont on parle tous maintenant, des rachats massifs de dettes. Je vois au contraire une complémentarité entre les deux. Donc,
et
la peur de la peur elle-même, voilà.
Oui, un point très important, parce qu'on voit même, j'en parlais hier avec Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV, ou avec Alain Minc aussi, qui est sur cette position, qui disent qu'il faut effacer la dette. On n'a pas besoin d'effacer la dette. Il suffit que la Banque Centrale Européenne la rachète, et comme vous dites, il faut une forme de dette perpétuelle. Et à ce moment-là, ça ne pèsera pas sur les États-nations, non ?
Non, on est malheureusement dans une voie, je crois, de japonisation, à la fois de notre vie sociale, parce qu'on va avoir des masques, etc., à tout bout de champ, mais aussi de la vie économique. Le Japon a une dette à 250% du PIB, le double de la nôtre, ça ne pose aucun problème, parce que les taux d'intérêt sont nuls, donc 0 fois 250%, ça fait 0. On sait que même si la dette aujourd'hui est à 100% du PIB en France, avant cette crise, elle va sans doute monter à 110, 115 à la fin de l'année, mais même avant cette crise, la charge des intérêts sur la dette n'avait jamais été aussi faible en France depuis la fin des années 70. Donc c'est ça le vrai curseur, c'est combien ça coûte. Ça coûte rien, parce qu'on est dans une situation où l'épargne est très abondante, il y a un risque de déflation, il faut émettre de la dette pour faire face à tout ça. Ça ne doit pas être notre prix aujourd'hui, mais pour en être sûr, en effet, je suis pour mettre sous cloche le prix de cette dette sous une forme de dette dédiée en quelque sorte au financement de cette crise. Ouais. Émise à 50 ans, à 100 ans, il faut voir, ça n'a pas d'importance, mais si long que donc, pendant 50 ans au moins, cette question ne se posera pas.
Donc, lorsque le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, dit hier dans son interview au Journal du Dimanche, il dit qu'il faudra bien rembourser cette dette à un moment ou à un autre. Il a tort quelque part, c'est ça que vous lui dites.
Écoutez, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour François Villeroy de Galhau, donc je ne me permettrai jamais...
Oui, non, mais on n'est pas dans... Bien sûr, on n'est pas dans la polémique, mais c'est intéressant sur le plan économique.
Mais je pense que toute la question renvoie au diagnostic en réalité. Et là, pour le coup, on peut avoir des diagnostics divergents. Je pense que on est dans une période de déflation. Mais j'entends des gens qui pensent le contraire, qui disent non, en fait, il va y avoir des tensions sur le marché du travail parce que ce sera plus dur de remettre les gens au travail, je ne sais pas. Et donc, il y aura des tensions salariales. Personnellement, je n'y crois pas. Et je mets en garde contre une erreur d'interprétation. En tout cas, il faudra suivre très attentivement ça. Dans les années 30, on a mené des politiques catastrophiques, des politiques de restriction budgétaire, des politiques monétaires qui n'étaient pas du tout adaptées à la situation parce qu'on était terrorisés par le risque inflationniste. Dans les années 30, au fond, tout s'explique par le fait qu'on avait tellement peur de revivre les grandes inflations d'après-guerre, la hyperinflation de 1923, qu'on a été ultra prudent du point de vue de la politique économique. Ne commettons pas cette erreur, en tout cas, voyons ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Je ne crois pas du tout au risque inflationniste, mais je peux parfaitement me tromper. Il faudra être attentif à ça. Mais attention, si on est plutôt dans un risque déflationniste, alors ça n'est pas la dette. Le problème, c'est bien de réactiver l'activité économique, alors même qu'on sait aujourd'hui que ce sera très dur, parce que le virus ne va pas disparaître. Donc Emmanuel Le Chip le disait juste avant, à très juste titre, il y a des secteurs entiers de l'économie, le tourisme, les restaurants, les cafés, qui peut-être vont être pendant très longtemps sous perfusion, et il faut...
Qu'est-ce que vous conseillez justement au ministre? On sait qu'il est, je ne sais pas si vous en faites partie, mais en tout cas vous réfléchissez certainement ce qu'il faut faire pour rebooster cette économie française et faire qu'on sortira de cette crise, je veux dire, bon an, mal an.
Je ne suis pas sûr que le terme de rebooster soit le terme. C'est là que peut-être je suis un peu en décalage avec certains de mes collègues. Ouais. Je ne crois pas que le point fondamental soit de rebooster, parce que si les secteurs qui sont victimes de la crise aujourd'hui, le tourisme, etc., les spectacles, s'ils doivent le rester encore longtemps, et aucun reboostage ne va les aider. Donc ce qu'il faut, c'est surtout être très attentif aux entreprises, aux personnes, et donc je pense que ça va coûter encore beaucoup d'argent à s'assurer que le filet de sécurité qu'on a commencé à tresser soit encore plus performant. On a le chômage à temps partiel qui fonctionne très bien, on est presque à la moitié du secteur privé qui est en chômage à temps partiel.
Oui.
Ça va coûter 24, 25 milliards, c'est des sommes importantes, mais au fond, ça c'est de l'argent bien dépensé, vous voyez, 25 milliards. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent dans les trous de ce filet de sécurité, dans les indépendants, dans les travailleurs pauvres qui sont entre plusieurs emplois. Je pense aux étudiants. Et pour moi, le soin le plus attentif sera apporté à toutes ces populations qu'on couvre mal en réalité. Ouais. Et c'est vis-à-vis de cela que l'effort budgétaire devra rester très important, déterminant, je pense.
D'accord, c'est la clé en tous les cas.
Oui. Qui viendra, qui sera nécessaire. On n'en est pas encore là en réalité. On en est surtout à veiller que notre filet de sécurité soit efficace.
Oui, pour éviter justement qu'il y ait un plan de relance qui soit trop fort, parce que une économie trop abîmée. Alors justement, ce monde d'après, je sais que ça fait longtemps que vous travaillez dessus, hein, Daniel Cohen. Vous dites que le confinement de masse devrait, selon vous, faire accéder au stade du capitalisme numérique dont vous décelez les aspects, en l'occurrence, très anti-humanisme. Est-ce qu'on est vraiment à un point de rupture du capitalisme? Parce que moi, quelque part, j'ai envie de dire, tout le monde parle du monde d'après. Est-ce que finalement, il va être si différent du monde d'avant? Est-ce qu'on ne va pas reprendre tous nos habitudes? Bon, peut-être pas demain matin, mais dans 3, 4, 5, 6 mois.
Alors, les habitudes, malheureusement, si on suit ce que disent maintenant les épidémiologistes, non, on ne va pas les reprendre. En fait, il y a des études qui se multiplient, une étude de Harvard qui a été beaucoup citée, qui dit qu'on va sans doute vivre beaucoup d'allers-retours. On va sortir du confinement, mais on va y retourner peut-être avant la fin de l'été, parce qu'il y aura une deuxième, peut-être une troisième vague. Ce que disent les épidémiologistes de Harvard, c'est que jusqu'en 2022, peut-être, on va constamment faire des allers-retours jusqu'à la découverte d'un traitement ou d'un vaccin qui prendra du temps. Donc,
2021, le vaccin, normalement.
Le vaccin 21, espérons. Donc, ça veut dire encore une année. Et si c'est une année de plus, ça sera 22. Bon, donc, en fait, on est pas du tout en train de sortir de cette crise, on est en train de s'y installer. Et si on était sorti en mai-juin en disant voilà, c'est fini, bien sûr, les choses seraient reparties comme avant, peut-être même avec plus de fièvre et d'enthousiasme. Là, malheureusement, on va avoir la tête comme ça baissée pendant encore longtemps. Donc oui, je pense que nous vivons en réalité, non pas un monde nouveau, mais un moment d'accélération de ce qui se dessine déjà depuis 10 ans, c'est-à-dire cette économie numérique, ce capitalisme numérique dont c'est le moment de gloire. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire maintenant, ce que font les gens sur les réseaux sociaux, la télémédecine qui est en train sans doute de connaître une phase d'accélération extraordinaire, tout ça, on s'en souviendra dans 30, 40 ans comme le résultat de ce moment de crise où on doit apprendre à vivre en ligne. Et pour moi, cette transformation du monde courant, du monde habituel en un monde numérique, c'est en effet la perte d'un grand espoir, d'une formidable promesse qui était celle que Jean Fourastier, mon héros, en fait.
Jean Fourastier, oui, évidemment.
Il avait dit le grand espoir du XXe siècle, c'est qu'on va sortir des usines pour rester dans les cafés, dans les endroits, dans les théâtres, dans tous ces lieux où la vie humaine prend le dessus sur la vie des usines et avant même la vie dans les champs quand il fallait cultiver durement la terre. Ce grand espoir, c'est ce que l'économie numérique est en train de fracasser. C'est très coûteux de se voir, de se parler. Tout ce qui peut se faire en ligne a vocation à l'être. Et on voit que cette crise aujourd'hui, malheureusement, sera sans doute le signe d'une accélération de ce passage à cette vie numérique. Au fond, la société industrielle...
Anti-humaniste, comme vous dites.
Oui, anti-humaniste, mais pour les mêmes raisons que la société industrielle avait créé une formidable déshumanisation du monde du travail. Mm-hmm. On était à la chaîne dans la société industrielle, on est en ligne dans la société numérique. Ça n'est pas beaucoup mieux, mais c'est la manière dont on crée de la croissance dans ce 21e siècle. Et je pense qu'il faut être très attentif à ne pas lâcher la promesse humaniste de ce monde qui émerge, on va dire, dans les années 60, au profit d'une société qui cherche toujours à réduire les coûts de fonctionnement. Malheureusement, cette crise-là est l'allié objectif de cette transformation du monde.
C'est très intéressant. Toute dernière question, il nous reste une petite minute. Le monde d'après sera peut-être pire que le monde d'avant. C'est pas moi qui le dis, enfin j'aurais pu le dire, vous me direz, mais c'est en l'occurrence, c'est Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Il dit, en plus, c'est très intéressant, la pandémie est la continuation par d'autres moyens de la lutte entre les puissances. On le voit bien, déjà sur le vaccin, les masques, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Daniel Cohen, en conclusion ?
Oui, parce qu'on voit aussi dans cette crise le fait que, qui ressemble d'ailleurs aux années 30, de ce point de vue, Karl Kindelberger avait dit, les années 30 ont été une crise aussi violente parce que le leader naturel qui était l'Angleterre, le leader naturel du 19e siècle qui était l'Angleterre, n'était pas capable d'assurer ses responsabilités collectives et le nouveau leader, les États-Unis, n'était pas encore en état de les assumer politiquement. On vit quelque chose de cette nature. On voit que les États-Unis, en tout cas les États-Unis de Trump, peut-être que ça va changer en novembre, mais les États-Unis de Trump ne sont plus du tout les leaders comme encore les États-Unis de Barack Obama l'avaient été après la crise de 2009. Il n'y a plus de leader naturel qui soit capable de coordonner autour d'un projet multilatéral la réponse à cette crise. Et on voit qu'en effet, la Chine pointe du nez. Donc on est, dans un entre-deux qui est très inquiétant aussi.
Merci beaucoup, même si ces propos sont peut-être encore plus inquiétants. Merci beaucoup de votre analyse. Daniel Cohen était donc notre invité dans le RH. On se retrouve demain, bien sûr, demain matin. Demain, le RH, 12h30. Très bonne journée. Dans un instant, ce sont les experts de Nicolas Dose, la rediffusion que vous pouvez écouter.